Bonjour à tous, bienvenue à votre Cinébrunch. Mon nom est Jim Boulay et comme chaque semaine, je suis en compagnie de Mélina Lopez-Nadeau et de François Genet qui est avec nous depuis quelques semaines.
Là. Oui, tout à fait, j'ai collé depuis le festival.
Ben voilà, c'est bien, on aime ça comme ça. D'ailleurs, François, il faut que tu payes ta cotisation pour CFLX.
Oui, voilà. Tout à fait, c'est à la poste.
D'accord, ça vient. Excellent. Voilà, aujourd'hui, émission, on retourne à la normale, donc après deux semaines de FCMS, on retourne à la normale. Je pense que vous aviez hâte hein, de retrouver notre bande de joyeux lurons, sympathiques, calmes, hein, avec un peu de musique transitoire, la légèreté, et loin de l'espèce de garrochage intensif de critiques de films qu'on vous a donné pendant les deux dernières semaines. Bon, ne vous en faites pas, c'est réglé jusqu'à l'année prochaine, si ce n'est qu'un autre festival va arriver dans quelques mois, mais ça, j'en parlerai une autre fois. Aujourd'hui, à l'émission, on va critiquer pour vous, comme d'habitude, trois films à l'affiche. Donc, dans mon cas, j'ai vu L'Empereur de Paris. François Genet, tu as vu Mia et le Lion Blanc.
Oui.
Et Mélina, tu as vu un autre film, en fait, un film d'animation.
Le Chaînon manquant.
Le Chaînon manquant. On va voir, on en entendra parler un peu plus tard. Sinon, aujourd'hui, hein, on est samedi de Pâques.
Oui.
Et donc, c'est une émission qui sera notamment consacrée sur le sujet. On vous présentera donc notre top 3 des meilleurs films, en fait, non pas des meilleurs films, mais des films de nos recommandations de films pour la période de Pâques. Donc, ben c'est ça. Là, on vous présente ça dans la deuxième demi-heure. Là, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Donc voilà, c'est ça qui est ça. Sinon, Mélina Lopez-Nadeau.
Oui. Ben en fait, moi, ben comme vous le savez probablement, lundi, hein, triste nouvelle, la cathédrale Notre-Dame à Paris a brûlé. Et donc, le groupe Walt Disney, en fait, a été un des premiers à annoncer qu'il faisait un don de 5 millions de dollars pour la reconstruction. Donc,
c'est énorme.
C'est vraiment dans les plus gros. Et c'est ça, c'est intéressant parce qu'en 1996, il avait fait le Bossu de Notre-Dame qui se basait, qui se passait là-bas. Donc, c'est ça, il y avait
quand même. Ils ont un attachement à la chose, ou en tout cas la volonté de faire un capital politique quelconque. Mais dans tous les cas, mais c'est super, je veux dire, que des compagnies privées investissent autant d'argent dans la reconstruction. Je trouve que c'est une bonne nouvelle. Une très, très bonne nouvelle. Merci beaucoup.
Oui, surtout qu'on sait que le film leur avait rapporté plus de 300 millions de dollars.
Oui, avec
même,
le recul. Mais quand même, c'est pas Warner Bros. Qui aurait fait ça.
C'est bien, non, mais...
Je fais des farces. Bon, et voilà. François!
Oui, tout à fait. On parle souvent de Netflix. Hein. C'est rendu quasiment à chaque émission. Ça arrête pas. Il y a tout le temps des nouvelles. Ça va vite dans ce monde-là. Et j'ai cru comprendre que vous avez parlé du premier film québécois qui allait arriver sur Netflix.
Oui, en 2018, je pense, au mois de septembre ou je sais pas quoi.
Exactement.
Ma mémoire est bonne.
Oui, exactement. Couronne noire de Patrice Laliberté.
Couronne noire,
oui, oui, c'est ça, j'ai pas dit ça, moi.
C'est couronne noire, mais couronne noire, c'est autre chose.
Oui, tout à fait. Ben, je suis pas dentiste, tu comprends. Je comprends les couronnes. Mais c'est subtil, mais là, on vient de savoir le nom des acteurs. Bon. Fait que ça, c'est intéressant. Tu vas voir une belle brochette d'acteurs.
Bon
Réal Bossé, Marc-André Gondin, Guillaume Lorrain, Marie-Evelyne Lessard, Marc Beaupré, Marie-Hélène Castonguay, Guillaume Cyr, Isabelle Giroux. Ça n'a aucun sens à quel point
ça
n'arrête pas. Donc, j'ai l'impression qu'ils ont mis le paquet pour que ce soit vraiment grandiose comme film. Donc, on a de voir ça va bientôt sortir.
Ben oui, j'ai hâte de voir ça parce que le tournage est terminé.
Le tournage vient de se terminer, là, justement.
Bon, ben écoute, à suivre, c'est bien. Je pense qu'il faut que, veux pas qu'on aime ou qu'on aime pas Netflix, il faut que le Québec ait sa place sur la plateforme. Donc, excellent. De mon côté, je vais vous parler de Minecraft, en fait, le célèbre jeu vidéo de construction et d'exploration en bloc, là, en cube, dont le long métrage en prise de vue réelle devait sortir en mai, donc d'ici quelques semaines.
Ouais.
Mais finalement, d'ici une semaine. Finalement, après de nombreuses péripéties, le film va sortir en mars 2020. 22.
Ben voyons donc.
Mais oui, c'est pas facile, hein, c'est pas facile.
Et mon doux, ils n'ont pas fini de le construire. C'est quoi qu'ils sont encore dans Minecraft en train d'essayer de.
On a dit qu'au niveau de d'avoir les acteurs pour faire le tournage en prise de vue réelle, c'était complexe, les studios, etc. Ouais. Et donc, différentes problématiques au niveau de l'équipe de production aussi.
Mais moi, je me demande, ça va être quoi l'histoire? Parce que pour ceux qui connaissent un peu Minecraft, il n'y a pas vraiment de but dans le jeu. Ben, là, je me demande, c'est peut-être pour ça aussi, ils essaient de créer une histoire probablement un peu intéressante.
Mais
oui, mais ils ne sont pas rendus compte à un mois qu'ils n'avaient pas d'histoire. Là,
ils ont clairement une histoire. Écoute, pour ton information, les gens peuvent même déjà se rabattre sur la mini-série, en fait, sur la série qui est disponible sur Netflix qui s'appelle Star Wars... pas Star Wars. Je sais pas pourquoi j'ai Star Wars en tête. Minecraft Story Mode, qui est disponible déjà sur Netflix depuis un certain temps. C'est une série interactive que les gens peuvent participer directement en regardant la série, à prendre des décisions, mais bon, c'est très linéaire quand même. Et donc là, on suit une équipe, et tu peux choisir même ton équipe au début de la série. C'est particulier. Donc, il y a déjà ça qui existe. Il y a Star Wars Story Mode, je pense. C'est Story Mode, en tout cas, Story quelque chose, qui existe déjà comme jeu vidéo, qui est plus ou moins encadré d'une histoire avec des cinématiques et tout ça.
Une histoire de Star Wars.
Non, pas Star Wars. Je sais pas pourquoi. J'ai encore dit Star Wars.
Oui.
Mais non, mais c'est parce que c'est... j'en ai pas parlé, mais Star Wars, la bande annonce est sortie. Pour le...
écoute, ça vient nous chercher.
C'est ça. Ouais. Donc, non, désolé de revenir à ça. Je ne parle que de Minecraft en ce moment.
Remplacer toutes les Star Wars par Minecraft.
C'est ça. Exactement. Et ça vient de se passer. Donc, voilà, Minecraft Story. Et je vous propose d'aller faire un tour sur Netflix si ça vous intéresse. Personnellement, j'ai trouvé ça un peu plate, ou disons très enfantin. Mais n'empêche que tout ça est très basé sur une histoire. Là. Vraiment, on n'est pas dans le ce qu'on appelle en anglais le sandbox. On est définitivement dans quelque chose de linéaire. Donc, je pense que le film, c'est la même chose. Je pense que ça suit une jeune femme qui joue avec ses amis. Non, qui essaie de probablement construire quelque chose. Non, en fait, je pense que c'est un rapport avec le dragon de l'Ender qui veut envahir le Overworld. En tout cas, bref, j'entrerai pas dans les
détails.
On reste toujours dans la thématique propre aux jeux vidéo. Ouais. Mais voilà, on verra donc ce qui arrivera avec tout ça. Si ça sera décalé davantage, mais déjà, je pense qu'on a été quand même conservateur en disant que ça ne sortirait pas avant 2022.
Oui,
c'est loin.
Ça nous laisse sur notre fin.
Oui, je pense que Denis Villeneuve a le temps de sortir son film deux fois, et pourtant, à mon avis, c'est beaucoup plus difficile à fabriquer.
Mais il vise les étoiles.
Ben, c'est ça.
C'est ça que,
effectivement.
Exactement. C'est pour ça qu'on parle tout le temps avec Star Wars.
Exactement. Merci François d'avoir bouclé la chose.
Plaisir.
C'est merveilleux. Alors voilà, sans plus tarder, voici votre Cinébrunch. Voilà, c'est le moment d'écouter la critique de Mélina qui a été voir pour nous Le Chaînon Manquant. Écoute, quand j'ai vu la bande-annonce du Chaînon Manquant, j'avais pas vraiment envie d'aller le voir parce que graphiquement, ça me parlait pas du tout.
Mais c'est un film en stop-motion, premièrement.
Ouais.
Mais toi,
est-ce que t'as... Oui, je te laisse aller, là. De quoi je me mêle?
Laisse-moi, je vais commencer par le début, hein. On y va tranquillement.
Oui, oui.
On est samedi matin, donc...
Voilà.
On le prend relax.
Oui, c'est ça, tu sais. Non, en fait, le Chaînon Manquant, Missing Link en anglais, c'est un film d'animation américain, donc comme je le disais, en stop motion. Ça a été réalisé par Chris Butler, et en gros... c'est l'histoire d'un Sasquatch, donc, qui vit en Amérique et qui part à la recherche ou à la rencontre plutôt de ses cousins, les Yétis, qui vivent dans les montagnes de l'Himalaya. Donc, c'est un peu ça l'histoire, là, lui, c'est ça. J'ai bien aimé le lien, on dit « Ah oui, c'est ses cousins, il s'en va les rencontrer parce que lui, il est comme tout seul en Amérique. » C'est ça le concept, en fait. Je trouve ça quand même cool comme concept.
Oui, c'est la deuxième fois qu'il y a un truc sur le Yéti.
C'est vrai, toi, t'as vu Smallfoot?
Abominable petit pied en français, oui. C'est drôle, hein? Je pense qu'il y a un mouvement en ce moment sur le Sasquatch, là. Il y a quelque chose avec ça. Là.
Je sais pas.
C'est à la mode. Là. Voilà. Le néo-Sasquatchisme.
Ben, c'est ça. En fait, on dit que c'est commandité par l'Université de la Saskatchewan.
Bon.
Bref, sur ça, on va l'écouter.
C'est terrible. Incroyable. Oui, donc.
On va l'écouter la bande-annonce.
Oui, allons-y, tout de suite.
Selon la légende, il existerait une espèce oubliée. un chaînon manquant entre l'homme et la bête. Pendant des siècles, son dernier spécimen a vécu caché. Mais aujourd'hui, enfin, il sort de l'ombre. Et il est prêt à être trouvé.
C'est coincé, on dirait.
Une créature d'une stature impressionnante. 2,5 mètres. 300 kilos.
285, pour être précis. Vous savez, c'est la fourrure qui me donne l'air un peu plus lourd que je suis. Ça crée un léger effet d'optique. C'est parfois frustrant.
Bon, ça a l'air quand même drôle, malgré ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, c'est graphiquement que ça m'achalait.
Oui, donc là, juste le son, c'est correct.
Oui, le son, ça va, ça. Ouais, ouais. En fait.
Faut que tu y ailles et que tu te bandes les yeux, en fait, pour apprécier le film.
C'est une bonne idée. Ou je vais m'asseoir à l'envers.
Aussi, voilà. Aussi. Tu regardes l'image dans le projecteur inversé. C'est tout le monde. Non, mais c'est ça. En fait, moi, visuellement, ben, je trouvais ça... Je pense que c'est dommage parce que j'allais dire que c'était un des points forts du film. Donc, je pense pas que ça va être un film pour toi, Jim. Parce que, en fait, moi, j'ai trouvé ça beau, visuellement. Mm-hmm. Je trouvais que c'était quand même une des forces de faire ça... De visuellement, mais pour moi, où ça se gâte, c'est au niveau du contenu. C'est un peu moins fort. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est peut-être que dans les dernières années, on a eu d'excellents films d'animation, en fait, qui avaient tous une certaine profondeur, un deuxième niveau d'humour, donc que les adultes trouvaient autant leur compte que les enfants. Donc, si je repense, par exemple, à Pierre Lapin ou Inside Out, ouais. Sans dessus-dessous, il y avait tout le temps, comme je l'ai dit, un deuxième niveau d'humour ou un deuxième niveau de compréhension qui faisait en sorte que les adultes avaient autant de plaisir que les enfants. Mm-hmm. Et ça, c'est complètement manquant dans le film.
Mais
le
c'est
manquant.
Qu'enfantin ou c'est que adulte?
C'est qu'enfantin.
Ah, OK, OK.
C'est qu'enfantin, et ce que je veux dire par là, c'est que visiblement, en fait, je suis convaincue que les enfants vont aimer le film parce que le Sasquatch, en tant que tel, il est attachant. C'est un gros toutou géant, grand, donc il est cute, il est drôle, il est sympathique. Donc, c'est sûr que je pense que les enfants vont s'attacher. L'humour est très physique, donc, vous savez, un coup de poing, il revole ou je sais pas quoi, c'est drôle, ça fait rire. Donc, on a un humour très, ouais, ouais. Très de base. Mmh. Fait que je pense que pour les enfants, ça peut être bien là où j'étais un peu déçue parce qu'en fait, je pense que justement, on a été habitués dans les dernières années à des films d'animation qui poussent la note plus haut et ouais. Qui nous en donnent aussi aux adultes. Alors, c'est là que, tu sais, au niveau de l'humour, tout ça, comme je dis, c'était très physique, c'était très enfantin aussi, là, c'était un peu burlesque, peut-être, des fois, je sais pas, mais... et aussi, ce qui m'a beaucoup dérangé, ce qui m'a quand même un peu dérangé, c'est que, dans la résolution de problèmes, je dirais, à chaque fois qu'ils rencontrent des conflits dans l'histoire, la résolution de problèmes, c'est un coup de poing ou un coup de pied, ou... Tu sais, sans être violent, mais c'est pas une résolution...
C'est le netto.
Qu'est-ce que ça amène à nos enfants, ça? Qu'est-ce que ça apprend à nos enfants? C'est que.
Avec un bon coup de poing, on répare tout.
C'est ça. Non, et encore plus parce que le Sasquatch, au début, il est vraiment doux, puis là, il veut pas comme donner un coup de poing parce que lui, il est comme. Il veut pas donner des coups de poing. On s'entend, c'est pas nécessairement bien donner des coups de poing. Mais là, puis à un moment donné, il donne un coup de poing, puis là, c'est comme c'est bien parce qu'il sauve d'une situation. Fait qu'en même temps, je pense qu'encore plus que de montrer aux enfants que la résolution de problèmes, ça peut se faire par les coups de poing, on leur montre aussi que ça peut être drôle résoudre un problème. En tout cas, moi, être un enfant après avoir vu ce film-là, je me dirais, si je donne un coup de poing pour ça, sûrement que ça va faire rire les gens, tu sais, je sais pas.
Oh, ok, ouais.
Ben, c'est une drôle de façon de voir les choses, mais.
Ouais, ouais. Peut-être, mais c'est. Mais, tu sais.
C'est un film dangereux, finalement. C'est. Pour vrai,
tenez vos enfants loin.
C'est un film vraiment de base, en fait. C'est ça qui est un peu triste parce que
qu'on aurait pu aller plus loin. Le concept du synopsis est vraiment,
oui, il est
quand
vraiment
même
intéressant. Hein? Mm-hmm. Moi aussi, c'est ce que je trouvais.
C'est quand même dommage de voir qu'on s'est arrêté seulement parce que dans la bande annonce, c'est normal qu'on soit souvent premier degré là, mm-hmm. dans les jokes de bande annonce. Mm-hmm. C'est quand même assez normal. Ouais. Puis, mais c'est quand même dommage que dans un film d'une heure et quelques,
d'une heure et demie
à peu près, qu'on soit pas capable
d'aller chercher l'autre
niveau.
Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est sûr que c'est pas un film de Disney. Là. Peut-être que je suis un peu injuste dans le sens que, tu sais, Inside Out, c'était Disney. Peut-être que je le compare à ces films-là. Mais je veux dire, c'est ça. Je pense que c'est en fait un studio qui a décidé de faire un film en stop motion. Alors que, et de là, ils ont développé le concept de l'histoire, au lieu de partir du concept de l'histoire, et de là faire l'animation en conséquence. Du moins, je sais pas. Bref, je pense que les enfants vont passer un bon moment à aller voir ce film-là. Je pense que les enfants vont rire et vont s'attacher à la bête. En tant qu'adulte, bon, c'était pas déplaisant non plus. Je veux dire, j'ai souri à quelques reprises. Ça n'a pas la profondeur que j'aime dans les films d'animation qu'on retrouve dans les dernières années. Donc, ça m'a un peu manqué. Mais c'est ça, on met la table aussi pour qu'il y ait d'innombrables suites, dans le sens que le duo d'aventuriers poursuivent leur recherche de créatures mythiques. Donc peut-être qu'on...
Peut-être que le deuxième niveau est dans la suite, finalement. C'est ça, tu sais, le premier, c'est le premier niveau.
C'est ça.
La suite, c'est deuxième niveau, ça. Troisième niveau. Ouais. Puis là, finalement, c'est encore plus épique que ce qu'on pensait.
Mais est-ce qu'on est certain qu'il va y avoir une suite à ça?
Oh, non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est juste que tout est placé pour que s'ils veulent faire...
Si ils ont du financement, finalement, ils vont le faire. Puis c'est ça. Si le film marche bien, j'imagine
c'est
qu'ils
vont que ça va se faire.
Mais...
Ouais. Fait que c'est ça, donc je lui donne la note de 6 sur 10 en fait. Donc comme je disais, c'est un film bien correct, j'ai pas apprécié plus que ça, mais je pense que les enfants vont s'attacher à la créature.
Bon, ben excellent. Fait que ce film-là est toujours à l'affiche, il risque de l'être à mon avis pendant la période de Pâques, bien qu'il y ait un film de lapin qui s'en vient, hein. J'en parlerai peut-être un peu plus tard. Oui, parce qu'à chaque,
Pâques...
mais à chaque Pâques, il y a toujours un film qui sort pour Pâques. Comme un ou deux, mais en général un qui est comme vraiment orienté Pâques. Et de toute façon, on va en parler dans la deuxième demi-heure parce que notre sujet du jour, c'est notre top 3 des films pour Pâques. Donc, on en parle un peu plus tard.
C'est une bonne idée, ça, de faire un top 3 en plus.
Ben oui, hein, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Hein? Non, François, qui doit avoir plus que 3 films à présenter, je le sais.
Tellement de films, moi.
Ça devait couler, mais pas à peu près.
Donc, c'était ça pour le film. Je rappelle le titre, Le Chaînon Manquant. Donc, voilà.
Ben merci beaucoup, Mélina.
Ben ça fait plaisir.
Et on n'est toujours pas rendu au film de lapin. On va parler plutôt avec François qui nous présente un film qui s'appelle Mia et le lion blanc.
Le lion blanc, tout à fait.
Ça existe un lion blanc?
Oui, ben c'est ça, exactement. C'est,
c'est albinos.
Oui, oui. Ben non, mais il faut que ça soit différent. Il faut que c'est un lion différent.
Oui, ouais, sinon ça ne serait pas aussi le fun.
Sinon, on ne s'attacherait pas. Mais donc, on n'est pas dans les lapins, mais on est quand même dans les petites bêtes à poils.
Oui.
C'est une peinture, c'est pour ça qu'il est blanc.
Non. C'est vraiment un lion blanc sacré, tout ça.
Classique.
Bon. Oui, exactement. Donc, le synopsis, rapidement, Mia, 11 ans, qui est dans une relation avec un lion. Hein? Donc, tout à fait, un lion blanc.
Donc, c'est... sur Facebook, c'est écrit dans relation, une relation.
Relation compliquée, tout à fait. Ben, c'est sûr, c'est jamais simple avec un lion, là. On dirait. Donc, c'est un lionceau blanc. Donc, eux autres sont dans une ferme d'élevage de félins en Afrique du Sud. Et ça, on finit par le comprendre.
C'est quand même dans le précis,
là.
Oh, ouais, okay.
Donc, pendant 3 ans, ils vont vivre ensemble une amitié assez fusionnelle. C'est même plus que ça. Et donc, ils sont très proches. Elle fait pas d'autre chose dans la vie que ça, presque. À l'âge de 14 ans, son meilleur ami, finalement, découvre la vérité de son père. Son père qui décide de vendre des lions à des chasseurs de trophées. Et là, elle est complètement désespérée. Elle décide de quitter avec Charlie pour essayer de le sauver parce que sinon, c'est lui qui va passer. Qui va se faire vendre aux chasseurs de trophées.
Ben voilà.
Donc, c'est un petit peu le film. Donc, on peut aller regarder la bande-annonce tout de suite, écouter la bande-annonce.
Oui, parce que regarder, ça va être un peu difficile.
Oui,
regarder on
avec
écoute.
Les oreilles du cœur.
C'est ça.
Cette terre, c'est chez toi.
Elle est enfin heureuse.
Mia, ça reste un animal sauvage. Et maintenant, il ne quitte plus son enclos.
Tu peux entrer si tu veux.
Mia!
Sortez de là tout de suite!
J'en reviens pas que t'aies risqué la vie de ton frère.
Il doit partir.
Papa, je ferai tout ce que tu veux.
Trop tard, c'est terminé. Il sera vendu au premier acheteur qui se présentera.
Je vais t'emmener à la réserve. Viens, mon grand. Et tu seras libre. Mia a disparu.
Alors, on est dans le film d'adolescent, là.
Oui, tout à fait, tout à fait. Mais moi, je m'attendais à tout. J'ai regardé le trailer, je me suis dit, Colin, je vais pleurer ma vie là-dedans. C'est clair que ça va être ça. On va être là-dedans. Je me suis amené des
boîtes de Kleenex.
Je me suis dit, c'est un drame familial aventurier, là. C'est sûr qu'on s'en va dans le classement un peu louche. Oui. Mais c'est clair qu'on va pleurer. Mais j'étais un peu déçu là-dessus. J'ai presque vécu plus d'émotions dans le trailer que dans le film.
C'est vrai?
Oui.
Oups.
Oui,
ça veut dire que tout le bon stock est dans la bande-annonce?
Non, mais c'est parce que c'est la façon que c'est monté, puis c'est la façon que c'est réalisé. Mais okay. On va revenir tantôt parce que c'est intéressant. Je vais commencer par vous parler du réalisateur puis des acteurs.
Parle-nous du réalisateur.
Le réalisateur Gilles de Mestre, oui, c'est ça. C'est une coproduction avec beaucoup trop de monde, mais entre autres avec la France, mais c'est un film en anglais. Tu comprends? Il y a des Français là-dedans, dont Mélanie Laurent, qui est là. Dania de Villiers, qui fait la petite fille aussi, qui ont trouvé en Afrique du Sud, et Lingley Kirkwood, qui est là aussi donc des acteurs d'un petit peu partout qui se sont mis là-dedans pour faire un film qui est en anglais puis qui est traduit en français.
OK.
Même s'il y a des Français dedans. Ouais. Et donc, c'est un réalisateur qui est habitué de faire des documentaires très souvent. Entre autres, il a fait le Premier Cri en 2007. C'est lui qui a fait ce fameux film qui a passé à presque personne l'a vu, finalement. Okay. Mais il donnait naissance à du monde. Bref, il fait des documentaires. Donc, c'est même comme ça que le film il est venu. Il faisait un documentaire pour la télévision. Puis, il a commencé à voir des gens, des jeunes avec des animaux sauvages, puis il a fait « Ah, ça pourrait être... »
Ça pourrait être de faire un film avec un lion blanc.
Exactement. Mais bon. Là, il s'est rendu compte que c'était un petit peu plus compliqué que prévu, puisque là, ça a été long quand même, ce tournage-là. C'est un point positif du truc, parce que...
Que ça a été long à tourner?
Non, mais parce qu'ils sont vraiment donné la peine de dire « C'est un vrai lion ». Puis c'est vraiment la fille...
OK, c'est pas du CGI, là.
C'est pas du CGI. Donc, c'est un vrai lion. Ça, c'est vraiment cool. Pour
voir ça ajoute du... C'est intéressant, là,
oui,
déjà.
Oui, ça, c'est vraiment cool.
Puis c'est une vraie fille, aussi?
C'est une vraie fille, oui. Tout à fait. On sait pas...
Non, la fille est animée.
Non, la fille est en CGI, le lion est vrai.
Puis ils ont pris une fille, puis...
Il faut qu'ils s'habituent ensemble.
Exactement. Donc, pendant des années, ça a été long. Oui, ça a pris 3 ans à tourner le film. Surtout que le film est sur 3 ans, donc ils ont fait un petit peu à la Boyhood. Donc, ils ont décidé de prendre pendant 3 ans, de filmer ça pour voir que la fille a grandi, puis pour voir aussi que le lion grandit.
OK, donc, c'est quand même impressionnant.
C'est quand même impressionnant de ce côté-là. Là où c'est moins impressionnant, c'est,
c'est
le restant.
Okay.
C'est ça. Pour vrai, il y a exactement... Tu sais, le cliché template de ce genre de film-là était présent. Okay? Je pouvais quasiment dire ce qui allait se passer après. Et c'est triste parce qu'ils prennent pas, ils cèdent des trucs, puis ils prennent pas l'occasion d'aller chercher le côté émotionnel là-dedans. Tu sais, des fois, tu dis, la structure est déjà là, je sais exactement ce qui va se passer, mais ça marche. Tu sais, fait que pourquoi le changer? Tu sais, oui, ça va pas me surprendre, mais au moins, tu vas être capable de faire brailler du monde. Mais là, il arrive, puis là, tu vois, à un moment donné, OK, à part, elle s'en va quelque part, OK, cool, elle sauve de son école. Là, ils sont appelés, ah, oh, ma fille, elle s'est sauvée de l'école, oh mon Dieu, on va aller la chercher. Puis là, ils sortent pour comme aller la chercher. Puis il y a quelqu'un qui arrive à dire ah non, elle est déjà arrivée chez ici, on l'a trouvée.
Ça sert comme à rien.
Ça ne servait à rien.
Okay.
Tu sais, le côté qu'on aurait pu faire oh my god, elle est où, on l'a pas eu.
Ou probablement que ça a peut-être été coupé au montage pour une raison X.
Peut-être.
Mais,
mais
ça allait dans une direction, puis finalement,
c'est
ça marche
ça,
comme pas.
C'est comme ça partout. Au début du film, elle aime pas les animaux. Pendant 30 secondes, elle aime pas les animaux. 30 secondes après, elle est comme « Oh, je suis en amour avec le lion. » T'es comme « Mais voyons donc, Colin, prends le temps de le faire vivre. » Je comprends que c'est ça que ça prenait quelqu'un qui voulait pas, qui résistait. Puis après ça, « OK, finalement, je tombe complètement en amour. » Puis tu le quittes. Tu sais, c'est correct, mais prends le temps de nous le faire vivre. J'ai l'impression que c'est un film de 2h10 qui ont fait en 1h38.
Mais c'est ça, parce que c'est assez court, non?
1h38,
des films familiaux, ça peut quasiment pas dépasser 1h30 en général. Fait que déjà, 1h38, c'est long pour un film familial.
Ouais, ouais, exactement. Donc, c'est juste l'impression que le scénario était plus gros que ça, puis qu'ils ont essayé de faire rentrer tout ça là-dedans, puis on n'a pas le temps de le vivre. Puis, bon, ce qui est drôle aussi, c'est que le lion s'appelle Charlie.
C'est quoi qui est drôle?
C'est drôle parce que souvent ils cherchent dans le film, donc ils disent où est Charlie constamment. Moi, je sais pas les autres, je pense qu'ils l'ont pas catché dans le cinéma. Moi, j'étais crampé.
C'est quand même non.
Il était là.
C'est sûr que c'est voulu, là.
Ben,
c'est sûr que c'est voulu.
Je sais pas, mais.
Où est Charlie? Wow.
Moi, je trouve ça crampant. Moi, pour vrai, ça a été un de mes moments forts du film. Puis il y a aussi, bon, il y a des gens qui ont pas. Parce que c'est une fiction, mais c'est. C'est filmé très, très proche, puis comme c'est avec des vrais animaux, les gens ont tendance à pas comprendre que c'est une fiction. Tu sais, c'est presque... t'as l'impression des fois que c'est quasiment un documentaire tellement que t'as des images réelles et intéressantes, mais après ça, tu vois des affaires complètement absurdes qui arrivent. Puis là,
le drama d'adolescente, notamment.
Ben non, mais juste des fois, il appelle son ami l'éléphant qui vient détruire complètement
Ah, parce que le lion, il est ami avec un éléphant aussi?
Non, c'est son frère. Son frère, oui, en contexte, son frère, il fait comme, ah, finalement, je suis chumé avec un éléphant, puis on l'a jamais su. Puis là, il appelle l'éléphant. Okay. Puis là, à place de passer par-dessus une clôture, l'éléphant détruit la clôture, puis il s'en va. Puis t'es comme, ouais, mais c'est un enclos contre les éléphants. Fait que s'il est capable de détruire la clôture.
Mais il était fâché, mais quand
s'il est capable de détruire la clôture, il serait parti. Là.
L'adrénaline te permet de tout faire, tu comprends?
C'est sûr, je suis pas dans la peau d'un éléphant.
Non,
je sais
mais
pas,
tu devrais.
Je sais, mais c'est des grosses chaussures à la peau. C'est quand même une grosse pointure. C'est même pas simple. Mais, donc, c'est ça. Donc, il y a plein de petits trucs aussi. À un moment donné, il trouve une caméra vidéo qui date de 12 ans, puis il y a encore des piles dedans. Tu vois, moi, je décroche, tu comprends? Des petites affaires comme ça.
Oui.
Mais. Il y a quelqu'un qui a critiqué, que j'ai vu passer sur Internet, qui a dit il y a personne qui peut être aussi proche que ça qu'un lion, parce qu'à un moment donné, il est rendu. Tu sais, quand il est jeune, c'est correct, là, supposément que tu es capable de le faire, mais quand il est rendu vieux, il est rendu gros, c'est peut-être difficile, je sais pas à quel point tu pourrais être proche comme ça d'un vrai lion grandeur nature. Là. Je sais pas à quel point, mais en même temps,
si
rendu là.
Si tu es jeune, ça va, là, mais c'est ça.
C'est ça, tu sais. Ouais. Mais je veux dire, c'est sûr que si ce gars-là est pas capable de voir ça, je veux dire, le roi lion, il a dû fendre en deux. Là, ce gars-là, il a dû faire même. Non, mais il a dû faire même la matrice, le roi lion, c'est trop pour moi, tu comprends?
Mais c'est peut-être des inspirations, en fait.
C'est ça, tu sais. Parce que moi, je suis capable de rentrer dans le fait que le but du film, c'est que t'as mis avec un lion. Ça, je catch up. Ça, c'est le côté fiction, tu sais. Mais après ça, quand tu me sors des affaires autres que ça, c'est difficile parce que c'est très, très, très réel. Puis tu sors avec des affaires qui ont. Pas rapport, mais qui ajoute rien. Là. T'sais, c'est juste, on dirait, un shortcut de scénariste. T'sais. Je comprends que le but du film tient sur le fait qu'elle est amie avec un lion. Fait que ça, je rentre là-dedans. Mais quand tu sens que c'est un shortcut de scénariste,
ouais, c'est ça
comme,
qui est plate. Ah, ouais, ouais.
Oh, man, il manque de temps. OK, c'est juste l'éléphant qui va arriver, qui va tout régler. C'est comme, mais non.
Mais ça nous rappelle que c'est dur de faire des films et que souvent, notre objectif de départ est détourné par les producteurs, par les financiers, puis au bout du compte, ça change.
Oui, ouais, comme on a vu dans Epitus.
Il y a un des membres d'équipe de production qui s'en va, puis quelqu'un prend le relais, puis ça... Comme, ouais, c'est ça.
Puis on voit que le but premier de ce film-là, c'est aussi de parler de la chasse à trophées, puis que les gens, ils vendent, puis à la fin, il y a un gros monologue là-dessus, comme quoi qu'on est en train de perdre. Il y a beaucoup de textes là-dessus disant qu'on est en train de perdre beaucoup de lions là-dedans. Donc, je pense qu'il y avait un message envoyé, puis comme le gars, il vient du documentaire aussi, le réalisateur, je pense qu'on sent cette force-là du message.
D'exprimer, même quand tu viens du documentaire, des fois, d'exprimer des valeurs à travers la fiction, c'est peut-être plus facile.
Ouais, exactement.
Ça passe mieux.
Ouais. Donc, il y a plein de trucs vraiment intéressants avec ça, mais il y a beaucoup de ratés. Puis je trouve ça triste parce que pour les gens qui aiment les animaux, pour vrai, quand même, allez le voir, malgré le fait que je donne une note un peu faible, mais allez le voir quand même.
Qui est de
6.5.
Ouh, OK, quand même.
C'est correct, ça passe, mais je veux dire, c'est des beaux lions, c'est cute. tu vas faire « Ah! » Tu sais, je veux dire, c'est le moment.
Bon.
Mais au niveau du film, j'ai été un peu déçu parce que je me sens que j'avais un meilleur scénario dans ma tête juste en regardant le trailer.
Ben écoute, quand c'est ça qui se passe, on sait quoi en faire.
Oui,
donc on y va ou on y va pas, mais on est averti. Merci beaucoup de nous avoir averti.
Oui, 6.5.
OK.
Oui.
Voilà. Alors voilà, merci beaucoup François Genet.
Plaisir.
De retour à Cinébrunch et vous êtes toujours en compagnie de Jim Boulay, Mélina Lopez-Nadeau et François Genet. Et aujourd'hui, on vous parlera dans une dizaine de minutes de nos préférences pour les films de Pâques. Et on va vous parler, bien évidemment, c'est ça, notre top 3 des meilleurs films qu'on vous suggère. Ça ne veut pas dire que c'est des films nécessairement de Pâques, mais qu'on vous suggère pour la période de Pâques.
Oui. Il y a toujours un lien subtil. Vous allez voir, ça va être magique.
On sent que François est un grand amateur de lapin et de chocolat.
Oui.
Donc, excellent. Écoutez, en fait... Avant toute chose, je vais vous parler de mon film, parce que moi aussi, j'ai vu un film comme chaque semaine. On se partage la tarte des films à l'affiche. Oui. Et cette semaine...
Ça donne semaine, faim, finalement, ce ciné-brunch.
Ben, hein? Ça n'a aucun sens, le chocolat, la tarte.
Le popcorn aussi.
Oui, effectivement, tout est dans tout, comme dit le proverbe. Donc voilà, je vais vous parler du film français, du drame historique français, L'Empereur de Paris. C'est un film de Jean-François Richet, qui a déjà quelques films à son actif. Le film met en vedette Vincent Cassel, que je n'ai plus besoin de présenter depuis quand même un certain temps, parce qu'il est partout, et qui en plus a déjà joué plusieurs fois avec ce réalisateur. Aussi, dans le film, il y a la toujours aussi troublante Olga Kurylenko, que j'ai vue. Oh mon Dieu, mais cette actrice est merveilleuse. J'avoue que dans ce film-là, elle est un petit peu moins intéressante, mais quand même, Fabrice Luchini, qu'on verra bientôt dans Le mystère d'Henri Pic, ou que vous avez peut-être déjà vu au FCMS la semaine dernière. Alors voilà, donc plein de belles choses à venir, mais sinon...
La bande-annonce.
La bande-annonce!
On a hâte!
Oh oui!
C'est qui, lui?
L'évadé perpétuel.
Vidocq, monsieur.
On vous accuse d'un meurtre. Cette fois, c'est la guillotine.
Moi, je vous dis, je n'ai rien fait. Je connais les coupables. Libérez-moi, je vous les ramène. Pour lutter contre des hommes comme ça. Vous devez connaître leur manie, leurs habitudes, leur monde.
J'ai oublié que vous étiez l'un d'eux.
Non, je ne suis pas l'un d'eux. Vous avez besoin de résultats, je peux vous les fournir.
Et à quel prix?
Ma lettre de grâce.
Ah bon, rien que ça. Un voleur reste un voleur. Et des résultats restent des résultats.
Ben oui, des résultats, reste des résultats. Est-ce que ce film aura un bon résultat? C'est ce que vous saurez à la fin de ma critique.
Suspense.
Et voilà, alors, donc le film s'appelle L'Empereur de Paris. Évidemment, Vincent Cassel incarne le légendaire François Vidocq, un brigand qui est surtout réputé pour s'être évadé plusieurs fois. Parce que, bon, on l'appelait même, je pense, l'évadé perpétuel, je pense, un truc
parce
comme ça.
Parce qu'il s'échappait de prison.
Il s'échappait de prison, parce qu'on, à cette époque-là, en France, on avait coutume souvent d'envoyer les gens dans des bateaux pour travailler, pour payer leur peine. C'était comme avant la guillotine, c'était ça. Même chose, le film d'ailleurs ouvre sur une scène à ce niveau-là. Donc, en fait, une scène qui se passe dans un bateau et où il est envoyé pour purger sa peine et il va s'évader. On va voir toute cette scène-là. C'est franchement un beau morceau du film. Il retourne en France par après, donc après s'être évadé comme vendeur de tissus itinérants. Et jusqu'à ce qu'il tombe sur un groupe de malfrats qui le reconnaissent et qui vont en fait le faire accuser d'un meurtre qu'il n'a pas commis par vengeance. Face à la guillotine, il décide d'aider la police en mettant d'autres brigands sous les verrous. Et c'est pas la première fois qu'on voit un film sur le brigand Vidocq. Il y a eu plus qu'une dizaine de films qui parlent de lui depuis le début du 20e siècle. Le premier est en 1906. Donc, on est quand même dans un thème récurrent. Ce brigand Vidocq-là a influencé Victor Hugo, a influencé énormément de grands auteurs, Les Misérables.
Ouais, mais c'est ça, Les Misérables, ça ressemble à ça.
Les Misérables, c'est basé sur ça. Et c'est définitivement, au niveau historique, extrêmement intéressant comme histoire. Et c'est quand même assez rare, bon, Le Repentir, tout ça. Maintenant, est-ce que c'est vraiment fidèle au truc? Ben, c'est une bonne question. J'ai parlé de ce film-là, si vous vous souvenez, en septembre l'année dernière. J'avais d'énormes attentes pour le film. Pour tout dire, après vérification, il y a malheureusement, à mon goût, beaucoup trop de liberté d'interprétation au niveau historique dans le film L'Empereur de Paris, parce que beaucoup de choses ne sont pas tout à fait conformes à l'histoire réelle, y compris malheureusement la personnalité en fait de Vidocq qui est jouée par Vincent Cassel, sa relation avec les femmes. On l'idéalise beaucoup, il y a des gros morceaux de son histoire qui sont omis ou romancés dans le but probablement et tristement de simplifier la tâche du réalisateur. Les événements du film se passent évidemment entre la première Révolution française et la deuxième, donc les Trois Glorieuses. Vers la fin du film, on sent d'ailleurs les tensions politiques augmenter, plus de militaires dans les rues, et tout au long du film, on sent bien cette espèce de période un peu bizarre où plusieurs ont des idéologies diverses, mais c'est bon, certains sont napoléoniens, d'autres monarchistes. Bref, tout ça, c'est probablement boiteux au niveau historique, mais quand même intéressant à regarder parce que C'est assez rare d'avoir des films qui se passent à cette époque-là, en milieu urbain. C'est vraiment rare. On le voit souvent à la campagne. On voit souvent des films qui se passent dans des domaines, des choses comme ça. Mais c'est rare d'avoir des images de Paris du début 1800.
Le côté historique au niveau vêtements.
La ville, les mœurs, le mouvement, les marchés de rue, tout ça, c'est quand même intéressant. Bon, maintenant, le film est un peu claustrophobique et dans des décors un peu surutilisés à mon goût. On est souvent en dedans, dans des endroits étroits. Probablement parce que, bon, c'est un Paris reconstitué en CGI et donc ça coûterait extrêmement cher de montrer trop ou de montrer de trop près des décors grandioses et tout ça. Il y en a quelques-uns, il y a une espèce de drone shot, il y a une espèce de en tout cas, je sais pas comment dire ça, de paysage de Paris. Ils sont en train de construire l'Arche de Triomphe puis des choses comme ça, mais... Mais tu vois que tu sais c'est un petit peu flou à distance puis que c'est pas super. Tu sais le budget était pas là pour rendre ça exceptionnel. On est loin de James Cameron à ce niveau-là. Okay. Bon, ça c'est une déception pour moi. C'est quand même le fun de pouvoir vivre le Paris de ces années-là parce que comme je vous dis tout à l'heure, c'est assez rare de voir le milieu français urbain français des années 1800. Il y a beaucoup de films historiques qui se passent à la campagne, mais bon, sur un domaine, des choses comme ça, ça coûte moins cher. Soyez avertis, c'est un film avec beaucoup d'action, beaucoup de sang, pas mal de monde qui meurt dans ce film-là. Au niveau du jeu, j'ai pas grand-chose à dire honnêtement sur les acteurs, à part peut-être les antagonistes. La grosse lacune du film L'Empereur de Paris, c'est évidemment le scénario un peu simplifié à mon goût, mais surtout le travail du réalisateur qui tourne vraiment les coins ronds. Mmh. Ça, c'est triste. Qui donne des allures américaines au film. Les méchants sont vraiment très méchants, presque aussi weird que des psychopathes dans l'univers de DC ou dans Batman. Le personnage de Vidocq est comme purifié, comme un saint. C'est bon. Bref, c'est ça. C'est un pauvre innocent accusé à son insu, recyclant un justicier qui défend ses droits. J'ai de la misère à croire que ce gars-là était blanc comme neige, là, on va se le dire. Ouais. Et tristement, en lisant « Veux pas », il y a des doutes sur ces choses-là. Bon, on sent qu'on est dans une espèce de zone de dualité. Bon, écoutez, hein, au niveau technique.
Point intéressant. Là,
en fait, c'est là que ça reprend du power dans le film. Okay. Oui, parce que le montage, à mon avis, est pratiquement impeccable. On sent pas les coupes du tout. Heureusement, et musicalement, c'est bien. Des plans de caméra intéressants qui servent généralement bien l'histoire. C'est rien d'exceptionnel. Tu sais, c'est pas waouh, extraordinaire plan. Non, mais c'est impeccable. Ouais. Ça fait la base, mais ça la fait parfaitement. Ouais, ouais. Donc, moi, personnellement, pour ça, je donne un certain nombre de points. Je vais être généreux, honnêtement, avec ce film-là. Je donne un 7 sur 10, malgré toutes les déceptions que je vous ai énumérées. Je pense que malgré tout, le film réussit à nous intéresser, en fait. Sa mission, peut-être, à ce film-là, c'est de nous intéresser à l'histoire de cette période-là en France et celle du brigand Vidocq, évidemment. Mais sachez faire vos propres recherches. Après ce film-là, il y a des incohérences et de la romance là-dedans. Voyez-le comme un bon divertissement, peut-être beaucoup de mouvements, mais rien n'est prévisible dans le film. Donc, allez faire votre propre choix en allant voir le film. Et par la suite, allez faire un petit tour sur Wikipédia, sur différents sites où on vous parle d'histoire. Ça vaut la peine. Il y a beaucoup de choses intéressantes. Cette époque-là, c'était fourmillant en France, donc ça vaut la peine d'aller faire un petit tour. Donc voilà, c'était tout pour ma critique du film L'Empereur de Paris. Personne ne m'a demandé pourquoi ça s'appelait L'Empereur de Paris. Ça va rester un mystère! C'est le moment du
top 3.
Mais là, on était juste deux à le dire, top 3. Fait que,
ben non, mais c'est ça. J'avais un jingle, mais il veut plus. Ah. Bon, c'est des choses qui arrivent. Hein.
Peut-être. Attention. On tient les gens, là, vraiment, là, sur le cul.
Je suis vraiment triste. J'ai pas mon jingle, bizarrement. Je sais pas pourquoi.
On peut-tu le faire à bras? Tu sais, avec nos
voix. Non, mais je suis confus.
C'est le moment du top 3.
Top 3.
Ben non, bah en tout cas, bah tant pis. Voilà. Donc voilà, c'est
on
le moment du top 3.
Un nouveau jingle pour le top 3.
Non, mais c'est des choses qui arrivent hein, quand on fait de la on fait de la radio comme ça.
Exactement.
Voilà. Alors, je vous explique un peu le concept. Donc, le top 3, c'est quelque chose qu'on faisait régulièrement à l'époque, mais qu'on a arrêté de faire il y a quelques mois, hein, pendant un certain temps, parce qu'on avait beaucoup trop de contenu. Et donc, aujourd'hui, ça veut dire qu'on en a moins. Et non, pas tout à fait.
Non,
en
mais
fait,
ça nous permet de faire ces beaux moments-là.
Ben, c'est ça. Ça nous permet de, chercher le jingle. Oui. Mais ça nous permet surtout de vous partager nos goûts et de vous faire votre propre idée aussi en ayant plusieurs choix possibles. Et c'est toujours intéressant. Moi, je vais me confier, je suis un amateur de jeux de société. Il n'y a pas tout le monde qui me connaît.
Je ne savais pas ça.
Oui, j'aime beaucoup les jeux de société et j'en achète beaucoup. Et pour faire mes choix, je regarde beaucoup les top 10, les top 100, les trucs comme ça pour savoir qu'est-ce que les gens aiment. Puis j'essaie de comprendre en fonction de la personnalité de la personne, qu'est-ce qu'ils aiment et donc de quelle façon moi je m'identifie à la personne et donc je m'identifie au choix de la personne.
Oui, oui.
Et c'est un peu ça qu'on veut faire aujourd'hui à Cinébrunch avec vous en ramenant les classiques, le top 3. Et pour ce faire, on va vous présenter chacun 3 films, donc un total de 9 films.
Et on est bon en maths.
Hey, c'était écœurant. Et il y a des gens en informatique dans le coin. C'est ça. On va vous présenter donc 9 films qui vous permettront, selon à qui vous identifiez le plus, bon, est-ce que c'est Mélina, est-ce que c'est François, est-ce que c'est moi?
Faudrait faire un petit test.
Ben, moi, j'ai envie que les gens aient après ça sur Facebook nous dire mais à qui vous identifiez-vous dans cette émission?
On se pourrait dans un magazine pour 13 à 17 ans.
Absolument. Oh, ça, c'est un créneau qui nous intéresse, François. Oui. C'est un créneau qui nous intéresse. Non, sans blague, on revient à nos moutons. Donc, pour notre suggestion cette semaine de nos top 3, on vous présente 3 films qui chacun nous donne envie de vous inviter, et boy, c'est compliqué mon affaire, à regarder pendant la période de Pâques.
Oui, il faut qu'il y ait un lien avec Pâques.
C'est ça, soit que ça nous a marqué pain, chocolat, ou Pâques, que ça nous a marqué, ou que c'est familial.
Ça peut être intéressant de le voir, ou etc.
Ouais. C'est ça. Donc, merci François pour la précision. Alors, on a une tradition à Cinébrunch, pour ceux qui viennent de se joindre à nous pour la première fois, c'est que quand on ne sait pas comment commencer, on fait un roche-papier-ciseau. Et là, on va faire notre roche-papier-ciseau collectif.
Oh.
Alors, voilà, simple, on est 3. Alors, en 3,
ça marche, les règles? Alors, la dernière fois, j'ai raté. Ben,
on
a des
éliminations. Donc, alors, on y va. Il n'y a pas d'allumette, là.
Il n'y a pas d'allumette.
Roche, papier, ciseaux. Alors, attention. Roche, papier, ciseaux. Alors, j'ai la roche. Les deux, vous avez des ciseaux.
C'est
donc, la roche brise les ciseaux. Et donc, je vais commencer.
Ouais. Moi, je suis juste content d'avoir réussi les règlements. Tu comprends?
Oui, c'est ça. Mais en fait, est-ce que je commence ou je choisis qui commence?
Écoute, comme tu le sais.
Ça devient compliqué. Il faudrait brasser un dé pour rendre ça plus simple. Je vais commencer pour épargner notre auditoire de ce long monologue qui n'arrête plus. Je vais vous parler donc de mon top 3 des films pour Pâques. Mais on va tourner comme ça. Donc, notre top 3, après ça, notre top 2, après ça, top 1.
Oh mon Dieu. OK.
Ça vous va? Alors, voilà. Mon numéro 3 des suggestions de films que j'ai pour vous pour la fête de Pâques ou la période de Pâques ou le congé de Pâques, c'est le film Over the Hedge. Donc, avec un H comme la haie de cèdre. En français, le film s'appelle Nos voisins les hommes. Film d'animation de DreamWorks qui date de 2006. J'ai certainement vu ce film-là 5 ou 6 fois. C'est l'histoire d'un raton laveur qui a comme créancier un ours et à qui il doit rembourser en fait une grande quantité de nourriture.
Ça, c'est un documentaire, je pense. C'est ça.
On est proche du lion blanc. Là.
Oui, c'est ça, on est dans les unicorns.
Et donc, en fait, il rencontre un groupe d'animaux qui vit très près d'un nouveau développement résidentiel et après l'hibernation, ils se sont réveillés puis paf, une gigantesque haie de cèdre les sépare du monde des humains. Le raton, évidemment, qui veut s'aider lui-même, va faire semblant de vouloir les aider à récupérer de quoi se préparer pour l'hiver prochain. Mais évidemment, ça se passera pas tout à fait sans problème. Un superbe film sur l'amitié, c'est drôle. Les voix sont des voix d'acteurs connus, dont notamment William Shatner, si vous regardez la version originale. Donc, beaucoup de plaisir avec le film Over the Hedge, un film familial agréable. Il y a des lapins, il y a toutes sortes d'animaux là-dedans. Donc, voilà. C'était mon numéro 3, Mélina.
Mon numéro 3, en fait, j'y vais avec le film Zootopia. Donc, il y a une comédie policière qui raconte l'histoire de l'intrépide Lapine qui souhaite devenir policière. Donc, pourquoi je l'ai choisi comme film de Pâques? Ben, parce que ça raconte l'histoire d'une lapine qui est vraiment très attachante.
Beau lien.
Oui, vraiment, ben, Pâques, hein, les lapins. Ce qui me donne envie de dire, hein, achetez pas des lapins à Pâques, c'est pas une bonne idée. Donc, c'est ça, la petite lapine a fini par réussir à rentrer à l'Académie de police et ensuite elle peut commencer sa carrière comme policière à Zootopia. C'est un film excellent qui est sorti en 2017. Si vous ne l'avez pas vu, c'est vraiment à voir parce qu'elle est extrêmement attachante, la petite lapine. Pour ceux qui ne comprennent pas la blague, c'est une blague reliée au film que
voilà,
tu me fais.
Exactement.
C'est à voir.
Merci, François.
Et moi, j'étais un peu cassé dans les top 3, tu comprends? C'est mon premier, puis...
c'est ton premier top 3, il est trop de chef.
Ouais, oui, c'est ça. C'est, mais moi, en fait, mon premier film de top 3, je ne l'ai pas encore vu. Tu comprends? C'est mon... C'est ça, le principe.
T'es ambitieux, là.
Oui, je suis ambitieux, tout à fait. C'est parce que le principe, c'est que moi, à chaque fois à Pâques, mon père, il zappait à télé, puis on voyait tout le temps 5 minutes de ce film-là. Puis après ça, c'était terminé.
C'est quoi?
Fait que c'est Ben-Hur. Il passe toujours à télé dans le temps de Pâques.
C'est le film de Pâques.
C'est le film de Pâques classique, exactement.
Avec la course de chevaux.
La course, tout à fait. Fait que moi, je voyais toujours 5 minutes de ça par année. Ouais. Puis j'ai pas encore vu, c'est quand même 3h45.
Est-ce que c'était toujours les mêmes 5 minutes?
Souvent les mêmes. Parce qu'on est
moi, j'ai vu ce film-là et c'est quand même intéressant comme film. Moi, je le recommande à ton père de l'écouter au complet.
Ben, c'est ça, parce que ça a gagné.
Ça prête la résolution de l'année 2019.
Oui, tout à fait. Ça a gagné plein
de prix. Énormément de chevaux sont morts dans ce film. Donc, dans la production de ce film-là. Mais ça vaut la peine de le voir, c'est grandiose.
Oui, exactement.
Et un peu long.
Oui, ben c'est ça, c'est un peu long. C'est quasiment presque 4h. Oui, 3h44 minutes. Ça, c'est long. Mais donc, un film relié à Pâques. Et moi, c'est ça, je l'ai pas encore vu, mais allez découvrir, ça a l'air bon. En tout cas, le 5 minutes que j'ai vu, là, ça avait l'air très prometteur.
Excellent, merci beaucoup François. Deuxième top 2 en fait des meilleurs films pour Pâques, je vous présente le film Watership Down, en fait qui n'est pas un film, hein, question de brouiller les cartes encore plus, une mini-série en fait disponible sur Netflix en 4 épisodes de 50 minutes, donc pour un total de plus de 3 heures de contenu audiovisuel. Le film, la série Watership Down, c'est basé sur le roman éponyme de l'auteur anglais Richard Adams. Et ça, en fait, semble-t-il que c'est assez fidèle au livre, j'ai pas lu. Mais l'histoire, ça se passe dans un village de lapins. Le lapin Fever, un jeune lapro qui a des visions, apprend en rêve la destruction imminente de leur terrier collectif. Il tente de convaincre les siens de s'enfuir et c'est une véritable saga. Pour être honnête, visuellement, c'est correct, mais c'est pas du tout à la hauteur de ce qu'on est habitué de voir en CGI avec Disney, Pixar et les gros studios d'animation. Les mouvements des lapins sont comme un peu saccadés, des choses comme ça, mais...
Celui qui est dans ma cour aussi.
C'est vrai. Oui, tout à fait. Je pense que c'est basé sur la réalité.
Oui.
Mais en réalité, on oublie rapidement ce côté-là un peu artificiel et... on tombe dans une histoire d'une profondeur et d'une complexité vraiment surprenante pour le genre, parfois mythologique et surtout généralement non manichéenne. C'est franchement troublant de profondeur, c'est rough. La fin, on pleure un peu. Mon but, c'est de faire pleurer les gens à Pâques, parce qu'il faut se rappeler l'histoire originelle.
Exactement, l'alarme.
Mais, voilà, donc non, mais sans blague, c'est pas facile à voir. Je vous dirais, après ça, vous avez besoin de faire un petit peu de méditation. Si vous voulez vous taper un marathon de lapin, Watership Down, c'est, je vous garantis, c'est à voir. Si vous voulez vous recentrer après parce que c'est trop troublant, moi j'ai passé comme un certain nombre de mois à pas jamais vouloir revoir cette série-là. Et là, tu vois, ça commence à décanter et je serais prêt à la revoir. C'est triste et beau à la fois. Donc, Watership Down, disponible sur Netflix. Voilà.
Wow.
Top 2, Mélina.
Top 2, Mélina, l'histoire de Jean-Christophe. Donc,
je pense qu'il y a un doublon aussi.
Ah, mais c'est sûr qu'il va y avoir des doublons, en fait. Le film américain qui est sorti donc en 2018, réalisé par Mark Forster, donc sorti l'année dernière, en fait. Mm-hmm. On a fait des critiques pour vous de ce film-là. En fait, si je me souviens bien, on a fait une critique commune de ce film-là, si ma mémoire est bonne.
Peut-être. Oui.
C'est une adaptation au cinéma de la franchise de Winnie l'ourson. Et donc, c'est un film en prise de vue réelle. Donc, c'est mm-hmm. très intéressant.
Ils ont pris le vrai Winnie là, pour le faire. C'est ça.
Oui,
c'est
ça. Aller chercher.
C'est ça.
Oui, dans une factory de miel.
Oui.
Mm-hmm. Il y a de l'air un peu magané aussi dans le film. Ça rend encore un peu plus réaliste.
Il y a l'air d'une
réaliste.
Vraie peluche. Ouais.
Oui. C'est vrai. Non, et c'est ça. En fait, Jean-Christophe est rendu un adulte. Donc, c'est plus le petit garçon qu'on a connu. En fait, il grandit au tout début du film. C'est très, très bien fait comment c'est fait. Et avec l'âge, hein, vous savez, Jean-Christophe a perdu toute son imagination. Il a perdu son cœur d'enfant, on pourrait dire. Et donc, ses amis, Winnie...
Pauvre Jean-Christophe!
C'est
oh,
ça.
Il est ici!
Winnie, Porcinet, Tigrou, Coco Lapin, Bourriquet, Maman Gourou, Petit Gourou et Maître Hibou reviennent alors dans sa vie pour l'aider à retrouver son cœur d'enfant.
Mm-hmm.
C'est un film qui est vraiment magnifique. Si vous ne l'avez pas vu, ça vaut la peine, autant pour les adultes que les enfants. Peut-être même plus pour les adultes que pour les enfants.
Définitivement plus pour les adultes, oui.
Pourquoi je vous le conseille hein, comme film de Pâques? Il y a un lapin, il y a des animaux de mort.
Et on peut retrouver notre cœur d'enfant.
Et voilà. Hein? Quoi de mieux?
Mangeant un petit... Je connais une personne en fait qui n'aime pas recevoir des animaux en chocolat à Pâques parce qu'elle aime pas ça les briser pour les manger. Cette personne-là, c'est Jim, en fait.
Ah, mais quel être sensible tu es, moi-même.
Donc, en mangeant vos petits morceaux de chocolat brisés d'avance pour pas avoir à vous fendre le cœur de briser.
Nous, on avait déjà fait fondre un lapin en chocolat pour une fondue en chocolat. Fait qu'on l'avait mis assis dans un
casserole.
C'est vraiment triste.
On l'avait regardé fondre. C'était un peu spécial. Tout en regardant 5 minutes de Ben-Hur, on est une drôle de famille.
Ben, écoute, c'est ça. C'est, hein? c'est particulier. Moi, j'ai envie d'en apprendre plus sur ta famille, François.
Une fiction spéciale bientôt.
C'est ça. Donc, ton numéro 2, François.
Oui. Alors là, je vous ai parlé d'un film que j'ai pas vu. Après ça, là, c'est un film que j'ai vu. Mais là, je vois dans le côté lapin. Hein?
Oh!
Donc, côté lapin. Space Jam.
Ben voilà.
Et voilà.
Ben oui, c'est vrai.
Hein, il y a un lapin
c'est
là-dedans.
Ben c'est Bugs Bunny.
Bugs Bunny, tout à fait. Et Michael Jordan, qui sort là, qui est pas un lapin. Mais,
qui est quand même inusité dans un film.
Tout à fait. Oui. Mais c'est un très bon film, pour vrai. Les Looney Tunes qui arrivent là avec Michael Jordan, donc un fan de sport qui est moi-même. Moi, j'adore les films de sport.
Oui.
Et j'adore le sport en général. Donc c'est un film que j'ai adoré. Et voilà. Donc, vraiment, le mix entre animation et prise de vue réelle. Là, donc, parce que les Looney Tunes n'existent pas l'un des autres.
Ah non?
Non. Puis Michael Jackson est vrai.
François, pourquoi tu dis
Michael Jordan, je pense. Parce que Michael Jackson,
oui, c'est vrai.
Il est vrai aussi.
Il
est
reculant un peu.
Oui, c'est vrai. Non, mais ce qui se passe dans ma tête reste des fois dans ma tête, mais pas là tout le temps.
Non,
des fois, ça sort. Fait que non, Space Jam, pour vrai, c'est un bon film de Pâques pour essayer de sortir.
Oui, pourquoi
aussi
pas.
C'est un film différent.
C'est
aussi.
Léger, drôle.
Oui, drôle, puis vraiment très différent. Donc, on y va flyer avec un petit lapin comme ça.
Ben, c'est merveilleux. Merci. De mon côté, on est rendu au numéro 1. Le top 1 des meilleurs films, de nos suggestions de films pour Pâques. Et mon numéro 1, il y a une petite récurrence, c'est effectivement l'histoire de Jean-Christophe. Donc, Mina vient de présenter. Je vais essayer d'y aller brièvement. Donc, le dernier film de Disney dans l'univers de Winnie. Si vous n'avez pas écouté ce que Mina vient de dire, Jean-Christophe, évidemment, devient adulte. Il est rendu sérieux par la vie quand même un peu difficile qu'il a vécue. Il a perdu son cœur d'enfant, comme le disait Mélina, et oublié les amis de la forêt des rêves bleus, renommée Forêt des Centaures. Dans le film, parce qu'en anglais, c'est 100 Acres Forest. Un jour, Winnie va chercher Jean-Christophe pour l'aider à retrouver ses amis, mais en fait, pour surtout l'aider à se retrouver lui-même. J'ai critiqué ce film-là l'an dernier. Je ne me souvenais pas que c'était une critique commune. Je lui avais donné 9.5, en tout cas, ça c'est certain. Donc, c'était un de mes meilleurs films, et je pense que c'était mon numéro 1 des meilleurs films de l'année 2018.
Wow.
Donc, c'était quand même pas rien. Le film est actuellement sur Netflix et je l'ai donc regardé cette semaine.
Oh.
Le lien avec Pâques, Mina l'a dit, évidemment, Coco Lapin et ses amis, la famille, l'enfance et l'âge adulte. C'est un film magnifique qui pèse sur les bons boutons. Et je vous l'ai dit, si vous ne versez pas une larme dans ce film-là, c'est que vous devriez aller consulter. c'est ce que je vous ai dit l'année dernière quand j'ai vu critiquer le film. Évidemment, c'est un film un peu enfantin. L'intrigue est un peu simpliste, mais combien agréable à regarder. Donc voilà, c'était mon numéro 1, l'histoire de Jean-Christophe et Winnie l'ourson. Mélina.
Mon numéro 1, le fameux film Pierre Lapin, qui est sorti l'année dernière pour Pâques.
Comme c'est inattendu!
Donc, un film qui est un mélange d'animation et de prise de vue réelle, qui a été réalisé par Will Gluck et qui est une adaptation du livre Pierre Lapin. Donc, Pierre et ses amis aiment tout particulièrement se nourrir des légumes du jardin appartenant au vieil homme habitant près de leur terrier. Lorsque dernier décède, Thomas, un jeune homme vivant à Londres et neveu du vieil homme dont il ne connaissait pas l'existence, hérite de sa maison. Il n'apprécie pas beaucoup les lapins, à l'inverse de sa voisine avec laquelle il fait connaissance. Pierre, n'appréciant que très peu de voir partager son ami, va tenter par tous les moyens de faire fuir le nouvel arrivant. C'est un film qui est magnifique. Les lapins ont de l'air soyeux, c'est excellent, j'adore. Et d'ailleurs, Pierre Lapin 2 a été annoncé pour le mois de février 2020. Donc, on a tous ça. En tout cas, pour ma part, j'ai vraiment hâte de revoir les aventures de Pierre Lapin. C'est vraiment mon numéro 1 parce que c'est le meilleur film de lapin que j'ai vu. C'est excellent, c'est drôle. Et il y a le fameux deuxième niveau et deuxième sens que je vous parlais un peu plus tôt.
Oui, qui n'était pas dans le film Le Chaînon manquant.
Exactement.
Voilà.
C'est et François... qui manquait dans Le Chaînon.
Oui, c'est ça.
C'est le chaînon.
Et François, ton numéro 1.
Mon numéro 1. Là, j'ai... Le dernier, c'était Les Lapins, mon lien. Oui. Là, mon lien, ça va être Le Chocolat.
Oh.
Et oui, je suis comme ça. et voilà. Et là, le lien, là, tout le monde va dire, mon doux, il va parler de quoi pour Le Chocolat?
Oui.
Harry Potter.
Hein?
Là, ouais, hein?
Hein?
Ben oui, parce que dans le premier Harry Potter, les chocogrenouilles nous sont introduits.
Ah!
Et là, les grenouilles, Pâques.
C'est un animal. Là,
c'est quand même un beau film pour Pâques.
Oui, ben oui, exactement.
Le premier, lequel? La série?
Le premier, non, le premier, ben le premier, évidemment, ouais. Tu peux te taper
j'aime
la série
ça,
par après.
Ça.
Mais ben, Harry Potter, ben non, oui, est-ce qu'il y a vraiment un moment? T'sais, on pourrait toujours écouter Harry Potter de toute façon. Je pense que c'est quand même assez grandiose.
Moi, je suis même surpris que quelqu'un d'autre que Milena mette Harry Potter dans un
film.
C'est la première fois que ça se produit à Cinébrunch.
Quand même, hein? C'est.
Hein, t'amènes la polémique avec toi,
oui,
François.
Non, non, mais
sais,
c'est excellent,
sais.
C'est excellent.
Oui. Exactement. mais c'est ça, mais je pense que déjà, en général, c'est sûr que mon lien, c'est les chocogrenouilles, là, mais qui est un chocolat qui est mangé dans
Harry Potter. C'est ça.
Mais de toute façon, en général, il y a quand même, le chocolat est souvent impliqué quand même. Et oui, c'est vrai.
Oh,
quand
oui.
Même, tout à fait.
Oui, on se souvient, je pense que c'est dans le 4 ou dans le 5, là, quand Harry attaque les quand ils confondent les patronus, là.
Oui, tout à fait.
Il fait des patronus. Puis là, il est fatigué, après il mange du chocolat. Lupin,
exactement.
Il donne du chocolat.
Oui. Donc, il y a des liens avec le chocolat partout. Puis en plus, ça, c'est toujours intéressant
De regarder Harry Potter.
Harry Potter.
Voilà. Ouais. Mais merci beaucoup, François. Voilà. Donc, super. Harry Potter comme numéro 1 pour François Genet. Et c'est tout déjà pour Cinébrunch. Rapidement, je vous dis que le film L'école des lapins et les gardiens de l'œuf d'or est sorti au cinéma. Si vous voulez le voir, c'est le film de Pâques actuellement disponible à la Maison de cinéma et ailleurs au Québec. Sinon, on se dit à la semaine prochaine pour un autre Cinébrunch. On se retrouve donc samedi prochain à la même heure, donc le samedi à 11h en rediffusion le mardi même heure ou sur notre site web cinébrunch.com. Merci à tous d'avoir été là. Merci François, merci Milena.
Merci.
Merci, bonne semaine.
Ben voilà, bonne semaine.
Et bon chocolat.
Et bon chocolat, bonne fête de Pâques.
Oui.